Radio Kapi.
Oh, Kapi.
C'est la culture qui ouvre ce journal. La RDC sera à l'honneur de mai à novembre à la Biennale de Venise en Italie. C'est la ministre de la Culture qui l'a annoncé hier à Kinshasa. Dirigeants et artistes se réjouissent de cette opportunité de mettre en avant cette autre richesse du pays au-delà des forêts et autres ressources minières. Lutte contre la criminalité dans la capitale. Le gouvernement renforce les mesures de sécurité. Entre autres décisions, l'intensification des interpellations des auteurs de faux enlèvements, le renfort de l'opération Dobo et un contrôle plus strict des cartes SIM. L'exécutif compte aussi se pencher sur ces cas de braquage impliquant certains hommes en uniforme. En Ituri, une nouvelle étape s'ouvre dans la lutte contre les violences basées sur le genre avec le lancement cette semaine de la deuxième phase du projet Star RDC à Bounia. Nous parlons de ce projet, de son impact sur le terrain avec Patrick Makaya, spécialiste en ce type de violence à la coordination provinciale du projet. Madame, Monsieur, bonjour. La culture congolaise sera à l'honneur à la 61e exposition internationale d'art de la Biennale de Venise en Italie. Cela est prévu du 9 mai au 22 novembre 2026. L'annonce a été faite hier samedi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse organisée par le ministère de la Culture, Art et Patrimoine en partenariat avec la Fondation Damso. Cette participation s'inscrit dans une dynamique durable visant à renforcer la visibilité de la RDC sur la scène artistique mondiale. Que retenir à ce sujet? Ces informations de Blaise Shindani sont rendues ici par Vanessa Kongolo.
Considéré comme l'un des plus anciens et prestigieux rendez-vous artistiques au monde, la Biennale de Venise offrira une vitrine exceptionnelle à la culture congolaise. Deux œuvres d'art et divers objets culturels seront présentés à un public international. Pour l'artiste comédien congolais Rock Bodo, il s'agit d'une opportunité majeure de faire découvrir la richesse culturelle du pays au-delà de ses ressources minières.
C'est un réel plaisir, c'est une occasion de présenter un autre narratif par rapport à la République démocratique du Congo. C'est une occasion pour la République de présenter cette autre richesse que nous avons en dehors des minéraux.
Portée par le projet Simba Moto, cette participation traduit la volonté de la RDC d'inscrire durablement sa présence sur la scène artistique internationale, selon la ministre de la Culture et Art Yolande Elébé.
Ceci marque le début d'un processus. Un processus inscrit dans un agenda global de rayonnement culturel international que nous déployons progressivement afin d'assurer une présence cohérente, stratégique et continue de la République démocratique du Congo dans les grands rendez-vous internationaux.
Cette grande exposition internationale se tiendra sur une période de 6 mois, soit du 9 mai au 22 novembre 2026.
Dans le cadre des préparatifs de la 13e conférence des gouverneurs des provinces, le général de brigade Richard Moyo Orabi, commandant intérimaire de la 11e région militaire, séjourne depuis vendredi à Bandundouville, chef-lieu de la province du Kwilu. Cette mission s'inscrit dans une dynamique de renforcement du dispositif sécuritaire en amont de cette rencontre d'envergure nationale. Elle réunira les gouverneurs des provinces autour des enjeux majeurs de gouvernance territoriale, de développement local et de consolidation de la paix. On écoute à ce sujet le capitaine Anthony Molucha, porte-parole des opérations Nkemba, dans cet extrait choisi par Jude Mister Bilanda.
Cette démarche vise à garantir un environnement sûr et stable pour l'ensemble des participants et des autorités appelées à prendre part à cet événement majeur de la vie institutionnelle du pays qui sera présidé par le commandant suprême des FARDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La région du Kwilu porte encore des stigmates des violences perpétrées par les rebelles Mobondo, responsables d'une insécurité persistante ayant affecté les populations locales durant près de 3 ans. À cet égard, l'organisation de cette conférence constitue également un test grandeur nature pour les forces armées et les services de sécurité appelés à démontrer les avancées significatives enregistrées en matière de stabilisation et de retour à la paix. Cette rencontre a permis de changer sur les enjeux sécuritaires liés à l'organisation de la conférence et sur la coordination entre les autorités civiles et militaires.
Le parti politique Envol a tenu une conférence de presse hier samedi à Kinshasa. Son président s'est exprimé sur la situation sécuritaire et politique du pays. Félix Essanga a fermement condamné l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Il a dénoncé une situation sécuritaire qu'il juge préoccupante dans l'est du pays. Mais ce leader de l'opposition congolaise a aussi affirmé que le pouvoir en place tire profit de cette guerre pour tenter de s'éterniser au pouvoir. Nous vous proposons cet extrait des propos de Félix Essanga Ipungu, choisi par Blaise Chindani Kambala.
La guerre d'agression est ainsi devenue un alibi. Il n'y a aucune mission d'ordre quelconque en dehors et au-delà du mandat constitutionnel et qui pourrait se substituer à ce mandat. On peut alors légitimement se poser la question suivante. Le pouvoir cherche-t-il réellement la paix ou entretient-il la guerre pour des besoins politiques? Qu'on s'entende bien, nous condamnons fermement l'agression de notre pays par toute puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Nous exigeons le retrait de toute force étrangère, de mercenaires sur notre territoire national. Nous appelons le peuple congolais à assurer la défense de l'intégrité du territoire national. Mais cette position de principe ne doit pas nous faire perdre la lucidité. La condamnation de l'agression rwandaise ne saurait en aucun cas valoir, ne fût-ce implicitement, de validation de la gouvernance de la majorité en place.
Et son côté, le député national Fontaine Mangala interpelle le gouvernement central à travers le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication sur la récurrence des naufrages et autres drames sur les voies fluviales en RDC. Il a fait à travers une question orale avec débat déposé vendredi à l'Assemblée nationale. L'élu de Kisangani dans la province de Latchopo et membre de l'Union Sacrée s'interroge sur les mesures prises pour mettre fin à cette situation alors que des pertes en vies humaines continuent d'être enregistrées. Pendant cette session consacrée au contrôle parlementaire, Fontaine Mangala espère obtenir des réponses claires du ministre afin d'éclairer l'opinion sur cette problématique. On écoute dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Aujourd'hui, ce secteur fait beaucoup de dégâts humains, beaucoup de dégâts matériels. Pas plus tard, il y a quelques semaines, dans le territoire de Lukolela, on a dénombré près de 200 morts. Dans les lacs Maïndombe, il y a eu plus de 30 morts. Dans le territoire de Yaouma, plus de 30 morts il y a encore quelques semaines. Nous nous posons la question, pourquoi nos lacs, pourquoi notre fleuve devrait-il devenir les lieux où les Congolais doivent mourir? Les commissariats fluviaux qui sont gérés par le ministère des Transports sont-ils réellement à la hauteur de leurs tâches ou non? Nous voudrions aussi savoir de quelle manière procède-t-il pour faire des contrôles de ces embarcations et pourquoi il y a toujours une adéquation entre les manifestes que détiennent les commissariats fluviaux et la réalité dans des embarcations. Pourquoi toujours des surcharges alors qu'il y a des commissariats fluviaux?
Face à la recrudescence d'actes criminels dans la capitale, le gouvernement durcit le ton. Le vice-premier ministre en charge de la sécurité a présenté les nouvelles orientations issues d'une réunion interne réunissant les services de sécurité. Une riposte sécuritaire renforcée est annoncée avec de nouvelles mesures pour traquer les criminels et restaurer l'ordre public. Le point avec Christian Makasinga.
Parmi les mesures phares figure l'intensification des interpellations des auteurs de faux enlèvements, un phénomène en pleine expansion. Les services spécialisés de la police nationale sont désormais mobilisés pour traquer ces réseaux. Autre décision majeure, la poursuite de l'opération Dobo avec les déploiements de patrouilles mixtes composées des policiers et des militaires, des jours comme des nuits. Objectif, éradiquer le phénomène des Koulouna, ces gangs urbains responsables de nombreux actes de violence. Le gouvernement annonce également la tenue prochaine d'une réunion interinstitutionnelle pour traiter spécifiquement des braquages et des cambriolages attribués à certains hommes en uniforme, une question sensible qui préoccupe l'opinion publique. Enfin, une concertation est prévue avec les acteurs du secteur des télécommunications afin de renforcer les contrôles des cartes SIM. Parmi les pistes envisagées figure l'interdiction de la vente des cartes préenregistrées et la réidentification des abonnés afin de limiter leur utilisation à des fins criminelles. Autant de mesures qui traduisent la volonté des autorités de reprendre le contrôle de la situation sécuritaire dans la capitale congolaise.
Et toujours à propos de la capitale, sachez que les autorités provinciales de Kinshasa passent à la vitesse supérieure dans le but de réorganiser le secteur de transport dans la capitale. Jeudi, les ministres provinciaux du transport et de l'intérieur ont lancé, avec les associations des motocyclistes d'Iwewa, le processus d'identification et de numérotation des motos. Cette mesure vise à renforcer la sécurité et à lutter contre l'anarchie en dépit des tensions sociales persistantes. Le point avec Elachim Mbalou.
Au centre des discussions, la mise en place prochaine des systèmes d'identification et de numérotation des motos. Les autorités provinciales affirment que cette mesure vise à mieux organiser la circulation, renforcer la sécurité et mettre fin aux pratiques jugées anarchiques. Elles ont aussi demandé aux responsables des associations de sensibiliser leurs membres afin d'obtenir une large adhésion à cette réforme. Le ministre provincial des Transports, Jésus Noël Cheikh, a par ailleurs insisté sur la collaboration avec les agents chargés de la perception de la taxe des stationnements sur le terrain. De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur, Jeannot Canon a rappelé la nécessité d'une coordination étroite entre les communes, les services techniques et les associations pour garantir le succès de cette opération. Rappelons que ces processus d'identification et de numérotation des motos viennent d'être lancés alors que la ville de Kinshasa était paralysée le 16 mars dernier par une grève des chauffeurs des taxis et taxibus privés dénonçant des tracasseries routières.
Restons dans le secteur du transport. La Direction générale des impôts a réceptionné cette semaine un important lot de nouvelles plaques d'immatriculation accompagnées de cartes roses. Plusieurs innovations technologiques sont à signaler. C'est notamment un support en plexiglas ainsi qu'un code QR visant à améliorer la traçabilité de véhicules sur toute l'étendue du territoire national. Autre changement notable, la mention CG est remplacée par le sigle COD afin d'éviter toute confusion avec le Congo-Brazzaville. Du côté de l'association des chauffeurs du Congo ASICO, la réforme est bien accueillie, mais l'on insiste sur le respect du compromis trouvé avec l'autorité urbaine. On écoute à ce sujet. Bienvenue Kakoulé, président de l'ASICO, dans cet extrait choisi par Nancy Atambo.
Il y a le gouverneur qui nous avait déjà fait part de cette formation et nous avions eu à discuter ensemble avec lui autour de cette question où il nous avait rassuré que ces nouveaux lots de plaques seraient distribués à de nouvelles commandes. Donc, on ne va pas imposer aux véhicules qui ont déjà des plaques de matriculation de réacheter encore des plaques de matriculation. Ça, nous avions refusé et il était d'accord avec nous. C'est comme cela que le terrain d'attente qui était trouvé était que celui qui commande nouvellement une plaque, c'est celui-là qui va commencer à intégrer la nouvelle plateforme de toutes les informations numériques de cette nouvelle plaque. Mais quant aux anciennes plaques, en tout cas, ça reste écoforme jusqu'à l'épurement de leur durée de vie par rapport à l'engin ou au véhicule.
La 4e édition de la conférence scolaire dénommée pour elle s'est tenue hier samedi au lycée de Kassavubu dans la commune du même nom ici à Kinshasa. Une rencontre des discussions entre les élèves, experts en entrepreneuriat et le corps enseignant. Le but est de conscientiser les jeunes filles sur les violences basées sur les genres et sur l'esprit entrepreneurial. Jérémy Inonga, coordonnateur de la fondation, revient sur l'essentiel de cette activité. Il est au micro de Nancy Atambo.
C'est la 4e édition de la conférence scolaire pour elle, qui est une conférence pour la sensibilisation contre les violences basées sur les genres en milieu scolaire, en milieu universitaire. Et pour la 4e édition, nous allons choisir le lycée de Kassavubu. L'objectif, c'est d'éveiller la conscience des élèves sur les violences basées sur les genres, le leadership féminin et leur conscience sur leur rôle crucial qu'ils vont jouer dans les années à venir pour cette nation et pour le monde aussi. C'est lui qui n'est dit mot consent, comme on le dit. Donc, malgré votre situation, vous devez apprendre à dénoncer. Celui qui ne dénonce pas assume la chose. Vu que tu ne veux pas accepter que la chose ne t'arrive, tu dois dénoncer. Cherchez des canaux qui sont actuellement, il y a des canaux, ministère des genres et familles, il y a plusieurs canaux. Choisissez des canaux où vous allez dénoncer les violences basées sur les genres partout où vous vous trouvez.
Actualité internationale.
Au Niger, les organisations de la société civile réunies au sein de l'espace AES, Alliance des États du Sahel, montent au créneau contre la résolution du Parlement européen exigeant la libération de l'ancien président Mohamed Mazoum, détenu depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Hier samedi à Niamey, des centaines de personnes ont manifesté pour dénoncer une instrumentalisation politique de l'Union européenne. Ils accusent d'agir sous influence de la France. D'après africanews.fr, les trois pays membres de la Confédération des États du Sahel, nous citons le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont lancé un appel à une grande manifestation commune le 24 mars pour dire non à l'ingérence de l'Union européenne.
L'invité.
En Ituri, une nouvelle étape s'ouvre dans la lutte contre les violences basées sur le genre au VSBG. La deuxième phase du projet Star RDC a été lancée jeudi à Bounia avec pour objectif de renforcer la prise en charge du survivant et prévenir de nouveaux cas. Mais quel impact concret a ce projet sur le terrain? Patrick Makaya, spécialiste en ce type de violence à la coordination provinciale du projet, répond aux questions de Jean-Claude Loukidile.
Patrick Makaya, bonjour.
Bonjour.
Prévention et la réponse à la violence basée sur le genre, l'exploitation et abus sexuels et à l'autonomisation des femmes, que peut-on retenir de cette thématique?
Après avoir connu des conflits énormes qui ont dévasté nos populations, le gouvernement de la République démocratique du Congo, bien sûr, et la Banque mondiale ont trouvé un compromis d'appuyer de cette thématique-là avec les plaidoyers des gouverneurs. Donc, tous ces cas de violences basées sur le genre, nous intervenons là-dessus pour essayer d'éradiquer ces phénomènes, pour essayer d'apporter notre appui.
La question de violence sexuelle basée sur le genre, l'exploitation et abus sexuels, est-ce que c'est réellement un problème qui nécessite cette urgence pour laquelle il faut une deuxième étape maintenant de ce programme dans le cadre de la lutte contre ces fléaux?
Le gap est énorme, très énorme dans la province de l'Ituri. Il y a des cas qui viennent, les gens qui n'étaient pas au courant, un problème de petite communication, et actuellement les gens sont au courant qu'on les prend en charge, des femmes qui gardent des séquelles des viols, qui sont restées sans dire mot, et ces projets, c'est vraiment, il y a d'espoir pour eux. Et quand ils se sont rendus compte, malheureusement les délais de 6 mois ne suffisaient pas, alors que les données qui accourent vers nous démontrent clairement qu'il y a plusieurs cas encore qui attendent. D'où c'était la nécessité pour nous de renouveler ces contrats avec l'IRC, ces contrats de prestations.
Aujourd'hui, on parle de la deuxième phase de la mise en œuvre de ce projet piloté par IRC, je le rappelle. Mais quel bilan peut-on dresser justement ou établir de la première phase ou de la phase précédente?
Par rapport aux cibles, par rapport à l'atteinte des objectifs, le bilan est largement positif. Nous avions prévu de 5400 cas. Nous sommes au-delà des 5400 cas, nous sommes à 6300 et quelques. Et il faut que je revoie encore mes chiffres, mais en fait, le taux d'atteinte a été de 114%.
Cela dit à quoi, là?
Cela dit que les violences continuent un peu. Et puis, il y a des cas dont je venais d'évoquer tantôt, et des gens qui n'étaient pas au courant alors qu'ils vivent ces cas-là. Ils ont des séquelles. Ils ont des cas de fistules, mais ils n'étaient pas au courant que cela pourrait être pris en charge. Et dès que l'information leur arrive, ces femmes courent vers nos structures d'appui.
Et comment maintenant cette nouvelle phase de ce projet pourra améliorer la prise en charge de toutes les victimes, quoi?
L'appui, pour le moment, est essentiellement l'appui médico-sanitaire et il y a le psychosocial. Vous savez que quand une femme ou une personne qui est touchée ou par les viols et a besoin qu'on les répare, il y a des examens à entreprendre pour rapidement sauver la face, et nous avons l'accompagnement psychosocial. Cet accompagnement psychosocial intervient parce que une dame qui est violée, une personne qui est violée n'est plus assez normal dans une société. Vous risquez de voir quelqu'un qui a des réactions dans la société qui va à la contre des autres. Et ça peut même générer des cas de violence de sa part. Et si par malheur, et que cette dame avait attrapé une grossesse pendant ce temps-là, vous voyez qu'un enfant ici de viol, parfois c'est difficile d'accepter cette réalité, mais l'enfant va naître sans amour maternel, et ce sont des conséquences graves peut-être dans la société. Qui est-ce que cet enfant deviendra demain? On ne sait jamais, mais avec ces séquelles où cet enfant a grandi sans amour maternel, puisqu'ici des viols. Et voilà pourquoi nous intervenons surtout sur l'appui psychosocial. La personne doit accepter ce qui lui est arrivé et changer sa mentalité, évoluer, devenir forte pour appuyer aussi les autres peut-être qui vont tomber dans ces mêmes cas.
Patrick Makaya. Merci.
Je vous en prie. Merci beaucoup.
Patrick Makaya, spécialiste en violence basée sur le genre à la coordination provinciale du projet Star RDC à Abunia. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mis en onde par André Mungo avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Merci de votre attention. Bon dimanche.